Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, quelle joie cherchons-nous? Je vais vous parler une deuxième fois de l'acédie, le vice de l'acédie. J'y reviendrai une troisième fois encore, parce que c'est important. Quand on lit les auteurs anciens chez les moines, ils donnent une description, ils disent comment elle arrive. Mais vous savez que j'aime bien aller à la racine des choses, et saint Thomas d'Aquin, encore une fois, a repris toute la tradition, il l'a synthétisée, et ce n'est qu'à partir de cela qu'on peut faire des applications pratiques. Je vais en faire des applications pratiques. Beaucoup, je pense même. Parce que l'acédie est vraiment un vice de notre époque. Et parce que il s'agit de la joie chrétienne. Et cela dut-il vous surprendre? Le bon Dieu permet les épreuves actuelles pour développer en nous une profonde joie chrétienne. Entrons dans le vif du sujet. Saint Thomas d'Aquin s'étonne. Comment se fait-il que la charité qui allume en nous un feu qui communique la joie, et au point que nous devrions ne pas être attirés par autre chose, comment se fait-il que, justement, au contraire, nous soyons attirés par autre chose, c'est-à-dire que nous ne soyons plus attirés par la joie de Dieu, ce qui revient à dire que nous nous attristons de ce que Dieu nous donne. Nous nous y sommes habitués, parce que nous sommes habitués à vivre dans un monde qui méprise les dons de Dieu, c'est-à-dire qui ne leur donne pas leur prix, et qui n'en connaît pas la valeur. Peu importe qu'il ne veuille pas en connaître la valeur ou que les choses soient ainsi, qu'il n'en connaît pas la valeur, toujours est-il que nous nous habituons à ça. Je vous disais, la charité provoque la joie, parce que Dieu nous a créés pour participer à sa propre vie divine. Ça, je vous en ai souvent parlé, et vivre dans la sainte société du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Or, vivre dans la vie divine, c'est le summum du bonheur. Tout l'Évangile nous donne un message de bonheur, que ce soit les béatitudes, le discours après la scène, et ce bonheur consiste dans la participation à la vie divine. Dès ici-bas, il nous veut nous faire anticiper ce qui nous attend dans la vie éternelle. Et donc, nous reprenons la question de saint Thomas, comment est-il possible de nous attrister de ce qui devrait être le summum de notre joie. Cela est possible parce que pour participer à la vie de Dieu, pour vivre ici-bas dans la foi, nous devons y sacrifier des choses, des biens qui nous semblent plus concrets, plus sensibles. Et la vie divine peut de temps en temps nous paraître abstraite. On risque alors d'être beaucoup plus affecté par ce à quoi on renonce que par le bonheur futur qui nous attend. Oui, ça, ce n'est pas nouveau. Ça, nous le savons très très bien, c'est toutes les tentations. La question n'est pas de savoir si nous sommes tentés par les choses extérieures. La question est de savoir jusqu'où vont les conséquences, ou plutôt jusqu'où va la racine de cette attitude qui est nôtre. Et je vous l'ai dit la dernière fois, avec saint Thomas d'Aquin toujours, la racine plonge dans la charité. S'il n'y avait que la charité, il n'y aurait pas de problème, mais il y a la joie qui suppose de sacrifier des biens auxquels nous tenons et nous prenons cela pour du malheur. Et du coup, nous faisons un peu Dieu cause de notre malheur. Non, non, ne protestons pas. Nous l'entendons souvent chez les gens qui ne veulent pas vivre selon la loi chrétienne, parce qu'ils ont décidé cela, mais c'est vrai également un peu même chez les très bons chrétiens. Et je vous ai dit que c'était un vice caché. Je crois qu'en réalité, c'est vrai très profondément, spécialement chez les bons chrétiens. Eh bien, dit saint Thomas d'Aquin, préférer les joies bestiales, même, dit-il, hein, quelquefois un peu bestiales, d'ici-bas, et non pas la joie qui nous est communiquée par la charité, mais c'est un mépris des biens de Dieu. Et c'est ce mépris en quoi consiste l'assédie. Bien, cela suffit sur l'assédie aujourd'hui. Nous allons donc parler de la joie de Dieu. Quand nous aurons bien compris ce qu'est cette joie, comment nous en vivons, combien elle est concrète dans nos vies, combien on peut dire que nos vies se ramènent à cette joie de Dieu, on peut dire exclusivement, alors il nous sera très facile de voir ce qui s'y oppose et nous aurons une grande détermination à nous corriger de ce que s'y oppose. C'était récemment la fête Dieu, je vous ai dit que j'ai fait une première communion, que j'ai donné une première communion. Je vous en ai un petit peu parlé, je sais, mais il est bon que j'y revienne, parce que la répétition est la source de l'enseignement. Donc deuxième partie de ce sermon, la première c'était « Quelle joie cherchons-nous ?» La deuxième, importance de la première communion. Il est normal que l'enfant soit mis dès le début de sa vie, l'âge de raison bien entendu, quand il comprend les choses, qu'il soit mis dès le début en possession de ce qui fait la vie chrétienne. Ça, première surprise. Et nous nous persuadons que les enfants sont des êtres incomplets parce qu'ils ne savent pas acheter un billet de train, ils ne savent pas se conduire dans la vie, ils n'ont pas le sens de la valeur de l'argent, ils n'ont pas encore l'aptitude à l'effort physique, et que sais-je encore. Mais si on regarde les saints enfants, on constate au contraire, chez eux, une maturité supérieure à celle de bien des adultes. Un saint père du désert, Évagre, dit qu'il n'y a pas d'enfants, qu'il n'y a que des hommes en formation. Et oui, plus quelque chose est proche de Dieu, plus l'enfant l'apprécie et mieux il le possède. Or, que voyons-nous ? Les bons enfants désirent la première communion. Vous ouvrez la vie des saints, que ce soit les saints enfants ou l'enfance de saints qui sont parvenus à l'âge adulte. Saint Jean Bosco, Saint Dominique Savio, Saint Pie X, qui regrettait tellement de ne pas pouvoir communier parce que, à son époque, et c'était justement là un problème, on estimait que les enfants n'étaient pas assez mûrs avant l'âge de 12 ans pour communier. C'est-à-dire qu'on privait les enfants de l'essentiel de la vie chrétienne. Alors il ne faut pas s'étonner après cela qu'on les oriente vers quelque chose qui n'est pas la vraie vie chrétienne, donc qui n'est pas la vraie vie adulte, et qu'on ait des problèmes à l'âge adulte. Regardez, lorsque Dieu envoie la très sainte Vierge aux enfants de Fatima, il commence par leur donner la première communion. Les prêtres ne les estimaient pas assez mûrs, alors Dieu leur envoie un ange qui leur donne la communion. On commence par là. Après ça, la sainte Vierge va leur parler. Les bons chrétiens donnent une importance primordiale à leur première communion. Elle fut la source de la vocation de Mgr Lefebvre. Et il affirme dans un sermon d'ordination à Écône qu'il en est certainement de même pour beaucoup de prêtres. Bien, nous sommes toujours dans la deuxième partie, importance de la première communion. Nous avons vu qu'il est normal qu'un enfant soit mis dès le début en possession de ce qui fait la vie chrétienne, donc de la communion. Deuxièmement, toujours dans cette deuxième partie, la première communion devrait être le critère de tous les choix de vie. Le choix du sacerdoce ou de la vie religieuse, évidemment. Comment cela, voyez ? La communion sacramentelle met dans l'union, c'est son nom, communion, elle met dans l'union. Elle met dans l'union au Christ sacrifié, au Christ offert pour nous, au Christ qui s'offre à son Père. Ça, nous développerons cela, et nous l'avons déjà développé lorsque nous vous avons parlé du sacrement de l'Eucharistie. Cette union qui est spirituelle, bien entendu, lorsque le sacrement passe, puisque les espèces eucharistiques ne restent pas longtemps à l'intérieur du corps, il reste l'union spirituelle. Et cette union spirituelle, il est de sa nature de ne pas s'affadir, au contraire, et de grandir. À cause du péché originel, des péchés personnels, des péchés de faiblesse, elle s'affadit un petit peu, d'où la nécessité de communier de nouveau, mais de communier sacramentellement ou spirituellement, c'est-à-dire de réveiller l'amour de Dieu en nous. Donc, quelle est la question qu'un jeune doit se poser par rapport à la vie religieuse et a fortiori à la vie sacerdotale ? Comment vais-je vivre dans cette union spirituelle à Dieu, cette union qui prolonge toutes mes communions ? Comment, dans quel état, dans quelle situation, de quelle manière vais-je vivre le plus intimement avec Dieu ? Il est évident que c'est pour cela qu'il y eut autrefois tant de vocations. J'ai connu une famille, 12 enfants, 10 vocations. À Naples, au XVIIIe siècle, le roi franc-maçon, ou d'esprit franc-maçon, prétendait interdire qu'il y ait plus d'un prêtre par famille, parce qu'il était très fréquent qu'il y en eût beaucoup. Cela vaut également pour le choix d'un époux ou d'une épouse. Pourquoi ? Parce qu'on se marie pour faire vivre toute la famille dans la communion prolongée tout au long des jours. Cette communion spirituelle, vous voyez, elle doit être prolongée et c'est cela la vie de famille. Donc le choix de l'époux, de l'épouse, est toujours par rapport à la communion. Le choix du métier, des amis, jusqu'aux conditions de vie, c'est moins direct, mais c'est pourtant cela qui compte. Prenez l'exemple d'un jeune qui veut faire le tour du monde en bateau. Très tôt, à 7 ans, à 8 ans, il se dit qu'il fera. Mon exemple vaut ce qu'il vaut, hein, mais c'est normal, sinon ça ne serait pas un exemple. À 8 ans, il veut faire le tour du monde en bateau. Il va tout orienter vers cela. Il va orienter ses études, il va économiser de l'argent, il va choisir ses amis, il va choisir son école, il va, etc. Vous allez peut-être trouver que vraiment je pousse un peu loin, que c'est très beau mais irréaliste. Eh bien c'est cela la CEDI, trouver que c'est beau mais irréaliste. Et mon but est de rendre cela réaliste. Et je sais que ce but est accessible parce que la grâce de Dieu travaille. Parce que c'est Dieu qui vous a poussé à apprécier cette doctrine que j'ai héritée de Mgr Lefebvre. Et Dieu ne vous aurait pas attiré s'il ne voulait pas que cela porte du fruit. Mgr Lefebvre, en parlant de choses très élevées, nous a guidés de façon très concrète. Beaucoup ne l'ont pas compris, hélas, justement pour cette question d'acédie, c'est-à-dire de mépris des choses très élevées. Ce qui compte, c'est ce qui reste. À lui seul, saint François d'Assise vaut plus que toute son époque. A fortiori, avec les fous qui sont devenus ses disciples. Bien, il faut donc restaurer la joie procurée par la communion, et donc par l'amour de Dieu, il faut la restaurer dans la vie des enfants. Un père de famille me disait « Je ne cherche qu'une chose avec ma famille, c'est à cultiver la joie. » Évidemment, il ne faut pas se tromper sur la joie qu'on cultive. Si c'est la joie extérieure, évidemment, là, on va causer de la cédille parce que dès que cette joie extérieure va manquer, eh bien, l'amour de Dieu ne sera pas assez fort pour le remplacer la joie extérieure. Mais s'il s'agit de la vraie joie, de l'amour de Dieu, comment fait-on pour restaurer la joie chez les enfants ? Il y a évidemment le discours, l'enseignement du catéchisme, le bon Jésus qui est mort pour nous et qui nous a sauvés, la Sainte Vierge qui nous aime tant, bien sûr. Mais les enfants ont besoin de choses concrètes. Il faut leur donner l'exemple enthousiasmant des lectures sur les martyrs, sur la vie des missionnaires, sur les saints enfants, Dominique Savio, Michel Magon, Saint Louis d'Anjou, qui est mort archevêque à 21 ans, Saint Louis de Gonzague, patron de la jeunesse, Sainte Germaine de Pibrac. Et puis aussi, sur la sainte enfance, des saints qui sont parvenus à l'âge adulte, Saint Curé d'As par exemple, Saint Pidis, Saint Jean Bosco, etc. On ne fait pas lire aux enfants des clubs des cinq ou des clans des sept. Je ne critique pas les familles qui le font, c'est toujours mieux que des mauvaises lectures et des bandes dessinées et tout le reste. Mais ce sont justement les meilleures familles qui font cela, qui seront très heureuses que je les mette en garde. Il faut leur apprendre également à faire en premier ce que Dieu demande et non pas ce qui plaît. C'est certain que c'est au moment d'aller dire le chapelet qu'un enfant se rappelle qu'il faut s'occuper du chat, du chien ou mettre de l'huile dans le tracteur. Bien sûr que les parents ont demandé de s'occuper du chat, du chien et que papa a demandé de mettre de l'huile dans le tracteur, bien sûr, mais pas aux dépens du chapelet. Et s'il y a un caprice à cette occasion, il est évident qu'il va falloir sévir. On ne demande pas à un enfant de comprendre toute la joie qu'il y a dans le sacrifice. Cela, ce sont les parents qui le comprennent. Et justement, il faut qu'ils le comprennent, eux, les parents. Et non pas qu'ils disent « Oh, ça n'est pas grave, tu pourras dire ton chapelet plus tard ». Ce qu'on demande à l'enfant, ce n'est pas de savoir qu'il y a de la joie dans cela. Ce qu'on demande à l'enfant, c'est de faire confiance à ses parents, sachant qu'ils donneront la joie. Ce qu'on demande à l'enfant, c'est qu'il fasse confiance à ses parents et qu'il soit certain qu'eux lui donneront la joie. Et cette confiance dans la joie que donnent les parents, même lorsqu'il y a des exigences, elle se fait d'abord par l'exemple, l'exemple de la joie des parents. Un père de famille me disait que ses enfants ne voulaient pas reprendre sa suite sur une exploitation agricole. Et il me disait, c'est très certainement que nous nous sommes trop plaints, nous nous plaignions des difficultés de la vie. Finalement, un des enfants a repris la suite, Deo gratias. Si les parents se plaignent de la vie chrétienne, ou même simplement s'ils n'en montrent pas la joie, ben, il est évident que les enfants ne pourront pas suivre. D'où l'importance de l'exemple, l'importance de la joie dans le foyer, surtout les joies chrétiennes dans les œuvres de miséricorde. Madame Mazingarbe, qui m'embrassait, elle piquait plus que papa, qui m'embrassait quand je lui apportais la soupe le soir, quel était le plus heureux, elle ou moi? Et mes pauvres camarades, qui ne comprenaient rien, et qui pendant ce temps-là, pour certains, écoutaient les Beatles, ou bien songeaient à la grande carrière professionnelle qu'ils feraient. Pas tous, heureusement. Il y avait des garçons sérieux et il y eut même des vocations. Poursuivons donc. Il faut restaurer la joie chez les adultes. Nous devons redevenir des enfants, puisque la première communion a tant d'importance. Il faut que nous revenions à notre première communion. Évidemment, si nous considérons les enfants comme des êtres incomplets, alors il est ridicule de redevenir enfant. C'est pourquoi nous ne mettons pas en pratique le commandement de Jésus-Christ de redevenir comme des enfants. Oui, c'est un commandement. Si vous ne redevenez comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Notre Seigneur ne nous demande pas de redevenir des êtres incomplets. Il nous demande au contraire de revenir à la plénitude de l'enfance, nous qui, sous prétexte de réalisme dans la vie, avons oublié. Si nous considérons l'enfant comme vivant dans l'émerveillement de sa première communion, et si nous entretenons cet émerveillement dans les communions suivantes, dans nos communions, alors oui, il est urgent de redevenir comme des enfants. Vous me direz, mais que de temps perdu! Pourquoi ne nous a-t-on pas dit cela plus tôt? Est-ce que je ne suis pas trop racorni pour redevenir un enfant? Ne vous inquiétez pas, on peut être enfant à tout âge. » Et parler ainsi, c'est encore de la cédille. C'est-à-dire de ne pas mesurer à sa juste valeur la joie de l'union à Dieu dans la communion et de ne pas mesurer à sa juste valeur l'aide que Dieu nous donne pour vivre de cette joie. J'en arrive à la conclusion. Oui, j'ai encore fait un serment un petit peu long. J'ai une petite histoire à vous raconter. Ça serait dommage de ne pas la raconter. Les moines de l'origine du christianisme se retiraient dans le désert pour ne vivre qu'avec Dieu. Évidemment, les démons en profitaient pour essayer de les décourager par la cédille. Alors il y a beaucoup d'histoires très amusantes entre les démons et les moines, et les moines qui se moquent des démons. En voici une. Les démons se mirent à jouer avec un moine comme avec un ballon de football. Ils le lançaient en l'air, se le lançaient l'un à l'autre, puis le laissaient retomber sur sa paillasse. Ils venaient le chercher, bien entendu, quand le moine était en contemplation. Que faisait le moine? Eh bien, il continuait sa contemplation. Sans s'apercevoir de rien, ou en faisant mine de ne s'apercevoir de rien, pas plus troublé que s'il entendait un orage. Eh bien, dans le monde moderne, le démon joue avec nous comme avec un ballon. Les inquiétudes sur l'avenir, sur notre avenir, car on s'inquiète souvent bien peu de l'avenir des autres. Inquiétudes sur l'avenir de nos enfants. Vous allez me dire, monsieur l'abbé, c'est normal d'avoir des inquiétudes pour nos enfants. Non, 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 non. Ce qui est normal, c'est d'avoir du soin pour les enfants. Et le soin, je vous ai dit quel il devait être, c'est le soin de les faire vivre comme les enfants de Fatima, comme saint Dominique Savio, dans l'enthousiasme de leur communion. Rappelez-vous saint Dominique Savio qui, après une communion, resta en action de grâce. Cette action de grâce dura toute la matinée. Il n'était pas en classe. Saint Jean Bosco vient le chercher, il le trouva perdu dans sa contemplation, juste à côté du tabernacle, derrière l'autel. Que voulez-vous qu'il arrive à des enfants comme cela? Relisez les histoires des enfants en pays communiste, racontées par Maria Winowska dans « Les voleurs de Dieu » ou dans « Du sang sur les mains ». Inquiétude spirituelle? Si j'étais privé de messe, de sacrement, de prêtre à mon lit de mort? Ces inquiétudes, qui vont avec la tristesse, sont la marque évidente de la cédille, c'est d'ailleurs à cela qu'on la reconnaît. Dès que nous répondons aux démons par l'inquiétude, il a gagné, c'est ce qu'il voulait. Que nous soyons inquiets parce que nous pensons que Dieu n'est pas le plus fort, le meilleur, la raison d'être de nos vies. Il faut répondre au bon Dieu par la joie, et plus les temps sont difficiles, plus nous devons être dans la joie. Qu'est-ce qui dominait dans l'âme de Jésus et de Marie au calvaire? La tristesse ou la joie? La joie, bien sûr, nous répond Mgr Lefebvre. Alors demandez à la Sainte Vierge cette joie qui dominait dans son âme, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.